Vous écoutez France Culture.
Le journal présenté par Mathieu Laurent.
Bonjour à tous. Quelques réinstallations pour emprunter à la prose officielle de Gilets jaunes. 150 sites recensés, le point dans un instant avec Manon Clavery. Avec Laura Dulieu, les principales déclarations politiques de la matinée, aucune réaction à gauche, le gouvernement écoute, assume et le président Davis dans les enquêtes d'opinion. Enfin, sa cote de popularité s'érode, commentaire de Frédéric Dabi, directeur adjoint de l'IFOP. Damas plastronne après le dernier revers infligé aux djihadistes de Syrie dans le sud du pays. Précision dans cette édition de Nicolas Feldman à Beyrouth. Au sommaire de la face cachée du globe, l'insécurité en Centrafrique et des violences subies par les Hazaras en Afghanistan. Avant de lire entre les lignes de ce mouvement des Gilets jaunes, constatons que cette première mobilisation est loin d'être terminée puisque des barrages sont encore tenus ici et là. Bonjour Manon Clavery.
Bonjour.
Manon, avec vous, voyons quelles sont les manifestations en cours et quelles formes prennent-elles.
Oui Mathieu, 150 barrages sont recensés partout en France d'après le ministère de l'Intérieur. C'est loin des 2000 d'hier, mais les manifestants reprennent petit à petit le chemin des routes depuis ce matin puisque des opérations escargots sont en cours sur les grands axes. C'est le cas de l'A20 dans l'Indre et l'A10 en Indre-et-Loire. En Gironde, l'A62 et l'A63 sont ralentis, tout comme l'A9 dans le Gard. À noter qu'au sud de Metz, dans l'Est, les Gilets jaunes ont passé la nuit dans la voiture, mais continuent aujourd'hui de bloquer certaines bretelles de l'autoroute A31. Opération escargot donc, mais aussi barrière ouverte aux péages, notamment à Montauban, dans le Tarn-et-Garonne. Dans le Tarn voisin, au total une centaine de manifestants répartis sur 3 zones et autant de forces de l'ordre mobilisées. Blocage devant des centres commerciaux et stations-service aussi. Cela se passe dans les Pyrénées-Atlantiques, la Creuse ou le Doubs. Dans la Manche, pas moins de 16 barrages recensés et 2 stations-service complètement bloquées à Cherbourg, avec 200 manifestants sur place. On compte aussi des blocages en Normandie, en Bretagne et en Picardie. À Paris, le mouvement s'est calmé aujourd'hui, mais des dizaines de manifestants sont arrivés en fin de matinée à Disneyland. Ils se trouvent au niveau du péage du parking et font entrer gratuitement les visiteurs. Et puis à La Réunion, les passagers d'un vol pour Paris ont enfin pu décoller ce matin avec 11 heures de retard. C'est une information de nos confrères de La Première. L'équipage de l'avion était bloqué par les barrages et n'avait pas pu arriver jusqu'à l'aéroport hier soir.
Merci Manon Clavery. Jeudi dernier, chez nos confrères de France Inter, le porte-parole du gouvernement lançait « C'est le pays légal qui rencontre le pays réel » pour reprendre les propos de Marc Bloch il y a bien longtemps. Benjamin Griveaux a certes confondu Marc Bloch et Charles Maurras, mais concentrons-nous sur le légal et le réel. La grogne, sous-dimensionnée par les uns, surévaluée par les autres, est là. Elle existe et elle oblige le gouvernement à une réaction. Évitement, démagogie, pédagogie de façade, mise en exergue des violences, 1 mort, 400 blessés, dont 14 dans un état grave. Bonjour Laura Dulieu.
Bonjour.
Vous avez-vous été attentive ce matin aux déclaratifs politiques? Qu'avez-vous retenu?
Eh bien que le gouvernement ne compte pas reculer. C'est le message en tout cas qu'il veut faire passer, avec quand même une dose de compréhension des colères. Ce matin, François de Rugy, le ministre de la Transition écologique, était au micro de nos confrères d'Europe 1.
Je crois que dans ce mouvement des Gilets jaunes, il y a beaucoup d'inquiétudes qui s'expriment. Il y a l'inquiétude immédiate, qui est celle des factures de carburant, évidemment. Et je suis évidemment prêt à ce que nous y revenions sur les solutions que nous proposons pour accompagner ce changement. Ce changement qui est nécessaire. Parce que si on ne fait rien, il y a des gens qui appellent à ce que on supprime les taxes sur les carburants. Ou est-ce qu'on les baisse? On fait cette politique-là. Et on attend que les prix du pétrole baissent. Et puis demain, ils remontent. Et ce sera pas dû aux taxes, hein. Comme au début octobre, c'était pas dû aux taxes. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on dit aux Français? Parce que si on arrête le mouvement que nous faisons sur la taxe carbone, ça veut dire aussi qu'on arrête tous les dispositifs d'accompagnement des Français que nous avons mis en place.
Et toujours dans la majorité, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, appelle à la responsabilité des manifestants. Il regrette aussi le manque de dialogue.
D'habitude, quand vous avez une manifestation dans un département à la préfecture, on demande à rencontrer le préfet pour faire passer un message. On demande à rencontrer le ministre de l'Environnement, par exemple, si on veut parler des taxes. Là, rien. On a manifesté pour manifester, on a bloqué pour bloquer, sans chercher à avoir un dialogue. On a cherché à faire des coups, on a cherché à faire de la communication.
Il était au micro d'RTL et dans l'opposition à droite ce matin, c'était Geoffroy Didier. Au micro de France Inter, le secrétaire général délégué des Républicains appelle à la poursuite plus calme du mouvement.
Il doit se poursuivre de plusieurs manières. Il doit évidemment se poursuivre à travers le discours politique que nous portons, à travers les représentants du peuple, mais il doit aussi se poursuivre spontanément. Vous savez, on peut en France manifester sans bloquer. On peut exprimer une colère, une exaspération légitime, sans chercher à entraver la circulation ou la liberté des autres. J'estime que les Gilets jaunes doivent poursuivre leur action tant que le gouvernement poursuit la politique qui est la sienne.
Voilà, et de son côté, la gauche se fait discrète ce matin. De manière générale, les responsables politiques craignent d'être accusés de récupération politique, d'où leur discrétion.
Laura Dulieu, le pays légal et la communication politique dont on sait qu'elle s'inspire de nombreuses et récurrentes enquêtes d'opinion. La dernière en date, pour le compte de l'IFOP, voit les cotes de popularité du couple exécutif glisser dans le pierrier. Nous avons sollicité à cet égard le commentaire de Frédéric Dabi, directeur adjoint de l'Institut de sondage IFOP. Frédéric Dabi répond aux questions d'Hugo Charpentier. La première, comment apprécier la baisse de popularité d'Emmanuel Macron ?
25% seulement de satisfaits pour Emmanuel Macron, 4 points de moins par rapport au mois d'octobre. C'est à la fois son score plancher en termes de satisfaction et plafond en termes de mécontentement. Le fait majeur est double. D'une part, Emmanuel Macron est minoritaire dans toutes les catégories de population, sauf les sympathisants de La République En Marche. D'autre part, de plus en plus, sa logique de distinction avec ses prédécesseurs s'estompe. À la même époque, en novembre 2013, dans le contexte des bonnets rouges et de l'affaire Leonarda et du ras-le-bol fiscal, François Hollande obtenait 20%, à peine 5 points de moins que le président actuel.
Et pourtant, face à la colère, notamment des Gilets jaunes, ce week-end, Emmanuel Macron veut maintenir le cap. Aucun changement de ligne, c'est ce qu'il dit.
Oui, c'est un des rares atouts qui lui reste auprès des Français. C'est auprès de ces 25% qui restent satisfaits de l'action d'Emmanuel Macron. Quand on les interroge, quand on recueille à l'IFOP leur discours, ils apprécient la cohérence, la ténacité et la capacité du président à transformer le pays. En dehors de ce socle, le mécontentement est fort et il se cristallise sur cette question du pouvoir d'achat, écrase tous les discours des mécontents et sont révélateurs cette question de la hausse des prix du carburant, dépenses contraintes qui pèsent sur le budget de beaucoup de Français.
Et la préoccupation écologique, elle est loin des préoccupations des Français aujourd'hui ?
Alors, pas vraiment. Elle n'est pas, comme par le passé, reléguée derrière les questions économiques et sociales. Elle est absolument réelle. Les Français ont pris conscience de l'urgence du réchauffement climatique. Mais c'est vrai que dans une autre enquête IFOP JDD, quand on interroge les Français sur quelle priorité entre pouvoir d'achat et transition énergétique, ils sont 62% à citer la priorité au pouvoir d'achat, même si chez les jeunes, chez les personnes âgées, chez les sympathisants de gauche et les sympathisants d'En Marche, c'est quasiment du 50-50. On n'est plus sur la phrase de Nicolas Sarkozy d'il y a une petite dizaine d'années, l'écologie ça commence à bien faire. On est plutôt sur des Français qui sont, je dirais, polarisés, voire obsédés par la question du pouvoir d'achat, mais qui en même temps ont compris l'urgence climatique.
Frédéric Dabi, cette mobilisation des Gilets jaunes, c'est aussi la disparition, le retrait en tout cas des corps intermédiaires, les syndicats et même un petit peu les partis politiques. Est-ce que quelque part ça n'isole pas encore plus Emmanuel Macron, d'être seul face à cette grande colère ?
Oui, c'est vrai qu'il est seul, c'est vrai que les corps intermédiaires connaissent un déclin réel. Il y a aussi la conséquence du Big Bang électoral de l'élection présidentielle. Aujourd'hui, ici et maintenant, il n'y a pas de réceptacle partisan ou syndical au mécontentement vis-à-vis d'Emmanuel Macron. C'est ça qui explique aussi le succès ou l'émergence, du moins, de ce mouvement des Gilets jaunes. Les corps intermédiaires reculent et ça, c'est le reflet de l'histoire politique récente électorale de la France.
Frédéric Dabi, directeur adjoint de l'Institut de sondage IFOP. Le couple franco-allemand, ses hauts, ses bas et ses divers de fond. Le chef de l'État français prendra la parole dans un peu moins d'une heure devant le Bundestag, discours suivi d'une réunion de travail avec la chancelière allemande sur la construction européenne. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou affirme ce matin que des élections anticipées seraient une erreur, bien qu'il ne dispose plus que d'une très courte majorité après la démission, mercredi, du ministre de la Défense Avigdor Lieberman. Benjamin Netanyahou doit rencontrer en fin de journée le ministre des Finances Moshe Kalon, dont le soutien est désormais vital pour sa coalition. En Syrie, les troupes du régime ont repris hier ce qui s'apparente au dernier réduit de l'EI, l'organisation État islamique, dans le sud du pays. Une victoire militaire supplémentaire pour Damas et un nouveau revers pour les djihadistes en Syrie. Les précisions depuis Beyrouth de Nicolas Feldman.
Il aura fallu plusieurs semaines de bombardements intensifs avant que les forces loyalistes viennent à bout des djihadistes dans le sud du pays. L'armée syrienne a repris hier le contrôle d'une région située entre les provinces de Damas et de Souaïda. D'après l'agence syrienne officielle Sana, les troupes du régime sont à présent engagées dans le ratissage des zones libérées. L'offensive sur cette région est survenue il y a 4 mois en réponse à une série de massacres commis par les djihadistes. Quelques 260 personnes, essentiellement membres de la communauté druze, avaient été tuées. tués. Avec cette progression, le régime réaffirme son autorité sur le sud du pays, tandis que les djihadistes, eux, multiplient les revers militaires. Leur dernière grande zone d'influence en Syrie se résume désormais à une vaste étendue de désert dans l'est, dans la province de Deir ez-Zor, une région, elle aussi, visée hier par un déluge de frappes de la coalition internationale. Des frappes, selon des témoins locaux, une nouvelle fois entachées de bavures. L'Observatoire syrien des droits de l'homme rapporte la mort de 43 personnes, dont une majorité de civils.
Il est 12h40, vous écoutez le journal de France Culture, c'est l'heure de la face cachée du globe. Bonjour Nabila Hamel.
Bonjour Mathieu. La Cour suprême des États-Unis a décidé mardi de se saisir d'un dossier de découpage de circonscriptions électorales sur des critères ethniques qui pourrait servir de test politique pour les nouveaux juges nommés par Donald Trump. La plus haute juridiction américaine se penchera donc pour la seconde fois sur la carte électorale de l'État de Virginie, accusée de concentrer les électeurs noirs dans 11 circonscriptions pour faire baisser leur poids dans les circonscriptions avoisinantes. Pas question d'accepter des élections anticipées, pas question de valider la nomination de l'ancien homme fort du Sri Lanka, Mahinda Rajapakse, au poste de Premier ministre. La crise politique au Sri Lanka se transforme en bataille rangée entre les partisans du président et ceux du chef du gouvernement déchu. À l'Assemblée, tout y passe. Les deux clans s'affrontent à coups d'exemplaires de la Constitution, de fournitures ou de mobilier de bureau, à coups de chaises et même de poudre de piment mélangée à de l'eau. La crise constitutionnelle évoquée ici même dimanche dernier dure depuis le 26 octobre. L'anniversaire de la révolution de velours, qui a mis fin en 1989 au régime communiste, a pris la forme d'un défi lancé au Premier ministre tchèque. Des milliers de personnes ont manifesté à Prague jeudi et hier encore pour demander sa démission. Andrej Babiš, accusé de détournement de fonds européens, est soupçonné de vouloir entraver l'enquête qui le vise. L'opposition réclame, elle, le vote d'une motion de censure, tandis qu'un parti de la coalition au pouvoir envisage de quitter le gouvernement. La Centrafrique, toujours en proie à une insécurité croissante, a renoué ces derniers jours avec des affrontements plus violents entre les milices anti-Balaka et le groupe armé L'Union pour la paix en Centrafrique, qui est l'ex-Séléka. Saber Gendoubi à Bangui revient sur les violences qui ont éclaté jeudi et vendredi à Alindao, ville charnière du centre du pays, où l'on a compté 40 morts en deux jours, dont un prêtre et le vicaire de la paroisse.
On sait qu'il s'agit d'affrontements entre les anti-Balaka et un groupe de l'ex-Séléka, l'UPC, l'Union pour la paix en Centrafrique, mais les versions se contredisent. Joint au téléphone, l'UPC affirme avoir voulu défendre les civils contre les autodéfenses. Quant aux autodéfenses, selon une source sur place, ils démentent la version de l'UPC et disent avoir défendu la zone contre le groupe armé. En tout cas, si la mission onusienne affirme patrouiller dans la localité, c'est l'UPC qui contrôle la zone et notamment le camp de déplacés, de l'évêché où beaucoup de ses habitants ont dû se réfugier dans la brousse. Des témoins évoquent des pillages et des incendies. Longtemps quartier général du groupe de l'ex-Séléka UPC sous commandement d'Ali Daras. Alindao est une ville qui est régulièrement en proie à des combats. Il faut dire que la région est charnière, située sur l'axe Bambari-Bangassou, car celui qui contrôle la zone contrôle l'or, le diamant, le trafic du bois et le commerce du bœuf. La dernière attaque d'envergure date de mai 2017. Une quarantaine de personnes avaient alors été tuées, selon la Croix-Rouge. En août dernier, un humanitaire a trouvé la mort et deux casques bleus y ont perdu la vie. Avec les villes de Batangafo et Bambari, au début de ce mois de novembre, les événements d'Alindao inaugurent une saison sèche qui s'annonce très meurtrière.
Cela fait plus d'une semaine maintenant que des combats ont lieu dans les provinces centrales de Razni et Uruzgan. Des renforts militaires ont été déployés sur place au cours des dernières 48 heures pour faire face aux talibans qui ont lancé leur assaut sur des districts habités par des Hazaras, la minorité chiite en Afghanistan. Des milliers de familles ont dû fuir leur village. Dans la capitale afghane, des militants de la société civile issus de cette communauté Hazara ont mené plusieurs manifestations ces derniers jours pour accuser le gouvernement afghan de négligence et d'incapacité à défendre la population civile. C'est une correspondance à Kaboul de Sonia Ghezali.
Mon frère et plusieurs hommes de notre village se sont retranchés en haut d'une montagne et résistent aux talibans. Les villages autour ont tous capitulé, raconte Ali, un jeune Hazara qui n'arrive plus à joindre sa famille. Celle-ci vit dans un village du district de Jaroli. Plus aucun numéro de téléphone personne n'est accessible. Les antennes téléphoniques ont brûlé après avoir été visées par des tirs de roquettes, confie le jeune Hazara, effondré. Jaroli et le district voisin, Balistan, dans la province de Razni, sont le théâtre de combats violents entre talibans et milices armées Hazara, aux côtés des forces armées afghanes. Celles-ci sont appuyées dans les airs par l'aviation afghane soutenue par les Américains, sous la bannière de l'OTAN. Les violences se sont étendues dans un district de la province voisine de Ruzgan. Cette zone est un couloir direct vers les provinces de Bamiyan et de Daikoundi, peuplées par la communauté Hazara et où les talibans n'ont pas encore réussi à s'imposer par la force. Selon plusieurs chercheurs afghans, les insurgés en majorité issus de la communauté Pechtoun, pratiquant un islam sunnite, veulent atteindre ces territoires pour montrer leur capacité à s'imposer en zone Hazara qui pratique en majorité un islam chiite. Selon l'ONU, près de 9000 personnes ont fui leur village situé dans les districts où les combats font rage.
À dimanche prochain.
À dimanche prochain, du soleil presque partout aujourd'hui, des pluies en revanche le long des Pyrénées et même des risques d'inondation dans l'Aude autour de Perpignan. Cette édition a été préparée avec Emmanuel Faucillon, à la technique Emmanuel Morse-Duncan.